Je dis que les légions romaines dévasteront nos terres et réduiront à néant nos coutumes et nos croyances.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série « Connaissons-nous vraiment les Gaulois ?» Question que nous nous posons avec l'historien et archéologue Dominique Garcia. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des croyances des Gaulois, de leurs dieux, de leurs druides et de leur art. Aujourd'hui, comment la conquête romaine a transformé la Gaule ?
Il veut s'acheter une couronne ! Il veut détruire la République et tenir Rome entre ses mains de tyrans sanguinaires !
En l'an 58 avant Jésus-Christ, Jules César lance ses premières offensives sur la partie de la Gaule qui est encore libre. Âgé de 42 ans, le proconsul appartient à l'une des plus illustres familles romaines qui prétend avoir comme ancêtre rien moins que la déesse Vénus. Grand stratège, Jules César est aussi un homme ambitieux. Il veut accéder au pouvoir à Rome. Pour cela, il le sait, il faut remporter des victoires militaires. Conquérir de nouveaux territoires, n'importe lesquels, c'est aussi l'assurance de rapporter du butin et d'accroître sa richesse. Un excellent prétexte se présente pour justifier l'attaque. Apprenant que les Helvètes, un peuple gaulois installé sur le plateau suisse, se mettent en marche pour migrer vers l'ouest de la Gaule, Jules César et ses 40 000 hommes arrêtent les migrants près de Montmort, dans l'actuelle Saône-et-Loire, et massacrent près de 300 000 Helvètes, principalement des vieillards, des femmes et des enfants. Un massacre qui en annonce beaucoup d'autres. L'objectif de César est de soumettre les Gaulois par la terreur, à grand renfort de tours d'attaque et de catapultes, grâce aussi à son service de renseignement. Une fois soumises, les populations sont vendues en esclavage. D'une violence inouïe, brûlant et pillant tout sur son passage, la progression de César semble irrésistible. Malgré la résistance des fameux guerriers gaulois, leur défaite semble totale en moins 52. En réalité, les Gaulois n'ont pas dit leur dernier mot.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Unissons-nous et tous ensemble expulsons les Romains.
Dans de grandes et glorieuses batailles.
En moins 52, coup de tonnerre, de nombreux chefs gaulois se rassemblent pour fomenter une insurrection contre les Romains. Menée par le chef des Arvernes, Vercingétorix, la guerre reprend. César subit son premier échec à Gergovie en Auvergne, tandis que Vercingétorix va de succès en succès. Mais le Romain contre-attaque. Le chef des Arvernes et ses troupes doivent se réfugier à Alésia. La localisation d'Alésia, malgré de longues controverses qui ont permis d'identifier pas moins de 18 lieux plus ou moins fantaisistes, ne fait aujourd'hui plus de doute. L'oppidum d'Alésia est situé en Bourgogne, sur le mont Auxois et sous l'actuelle ville d'Alise-Sainte-Reine. Exerçant comme toujours son talent de stratège et profitant aussi de la complicité de Gaulois qui ont préféré collaborer avec l'envahisseur, il ne faut à César que quelques mois pour faire capituler les derniers irréductibles assiégés à Alésia. La scène de la reddition de Vercingétorix est légendaire. Selon le philosophe Plutarque, le chef Arverne, sans un mot, jette ses armes, épées, javelots et casques, et ornements, phalaires et torques, aux pieds de Jules César. Selon un autre auteur, Florus, Vercingétorix s'agenouille, tend les deux mains vers Jules César en s'exclamant « Tiens, tu as vaincu, toi, le plus valeureux des hommes. »
Devant toi, Vercingétorix, fils de Celtil, chef de la tribu des Arvernes, commandant de la place forte d'Alésia, roi de tous les Gaulois, quel sort vas-tu lui réserver ?
Vercingétorix sera emmené à Rome, emprisonné pendant des années, puis en moins 46, exhibé comme trophée, enchaîné au triomphe de Jules César dans Rome, avant d'être mis à mort. Dominique Garcia, moins 52, c'est la prise d'Alésia, moins 46 avant Jésus-Christ, toujours la fin définitive de Vercingétorix. Est-ce que ces dates marquent vraiment un tournant dans l'histoire gauloise ? Est-ce qu'il y a un avant et un après ?
Oui, forcément. Il y a effectivement le moment où les relations sont équilibrées entre les tribus gauloises et la Méditerranée, et puis un moment avec un prétexte, vous l'avez bien évoqué, où ces Helvètes bougent un petit peu, et les Romains disent « Tiens, on va mater un petit peu cette migration », et César en profite, en bon général, pour dire « On va s'approprier le territoire. On ne va plus l'exploiter, on va le gérer administrativement. » Et donc, il va mener ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des Gaules, qui va durer quand même pendant 5 ans, qui va remonter la vallée du Rhône, vous touchez la Bretagne, vous l'aviez dit, etc. Et puis,
Il va même en Angleterre.
Il va même en Angleterre, effectivement.
Il traverse la Tamise en bateau.
Oui, bien entendu, et à partir de la Bretagne. Et donc, à la fois, il essaie d'asseoir son pouvoir sur un espace extrêmement large, d'une manière extrêmement violente, vous l'avez dit. Il arrive avec des dizaines de milliers de soldats. Il a une politique de la terre brûlée. C'est ce qui, parfois, a fait se fédérer les populations qui étaient encore indépendantes. Elles n'avaient pas envie d'être effectivement trucidées, de voir leur terre brûlée. Et à un moment donné, elles se regroupent autour de Vercingétorix, qui effectivement porte dans son nom, et on peut imaginer que c'est presque un sobriquet, il est le chef suprême des guerriers.
C'est ce que veut dire Vercingétorix
En tant que tel. Donc, il arrive à réunir certaines de ces populations. Il prend un rôle important en sachant, tout en étant prudent en avançant ses propos, que c'est César qui lui attribue quand même le plus de poids, le plus de génie, le plus d'intelligence. Et donc, peut-être aussi que César habile à fabriquer un ennemi à sa main. Il envoyait là aussi des rapports à Rome. Il ne pouvait pas dire qu'en face, il n'y avait que des gens qui se laissaient faire et qu'il n'y avait pas de risque. Donc, il a nourri un petit peu son histoire en dessinant ce portrait de Vercingétorix, à tel point qu'il ne va pas le tuer, effectivement, à Alésia. Il va le faire prisonnier, il va le ramener à Rome comme trophée, il va le garder en prison. Donc, cette image de l'ennemi public numéro un va être, sinon inventée, du moins bien nourrie par le discours de César. Et c'est un petit peu le paradoxe. Pour nous, on en a fait un héros, mais c'est à la fois un héros perdant sur lequel on est rassemblés aujourd'hui.
Est-ce qu'on a une idée à quoi il ressemble ?
On a des monnaies qui sont marquées Vercingétorix, mais qui reprennent des modèles de monnaies grecques ou romaines. Donc, le personnage jeune avec un visage d'Apollon, il est peut-être là aussi un petit peu arrangé, parce que la monnaie ne servait pas à vérifier l'identité des personnes, mais par contre, le diffuser une image. Donc, là aussi, l'image de Vercingétorix est sans doute un petit peu moins belle, moins romantique que celle qui est représentée sur les monnaies. Il était relativement jeune, il avait une trentaine d'années quand débute la guerre des Gaules, alors que César était un peu plus âgé. Et donc, on a affaire à deux personnages qui vont s'affronter.
Que va devenir la Gaule sous domination romaine ? Est-ce que ça change grand-chose ? Vous dites dans votre livre, Dominique Garcia, qu'en fait, il y avait déjà énormément d'influence romaine avant cette fameuse date de moins 52.
Alors, il y a trois étapes. Il y a, dès les années 125 avant Jésus-Christ, qu'une grande partie de ce qui est aujourd'hui la France avait été conquise par les Romains. Ils avaient mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la Provence, c'est la Provincia, c'était une province romaine. Et donc les régions aujourd'hui Occitanie et PACA, et une partie de la région Rhône-Alpes, ça allait jusqu'au lac Léman, étaient des régions qui étaient conquises dès 121. César n'est pas parti du littoral, il est parti de cet espace, et c'est pour défendre les frontières de cette région qu'on appelle la Narbonnaise, qui était depuis plusieurs générations romaines, qu'il a ensuite mené la guerre des Gaules dans tous ces secteurs. C'était un territoire qui était fréquenté, qui était exploité par les Romains, et ensuite ils vont l'administrer. Mais en revanche, ils ne vont pas inventer cet espace d'un point de vue des routes qui étaient empruntées depuis plusieurs siècles. Ils ne vont pas inventer les villes qui existaient aussi à ce moment-là. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une romanisation, une monumentalisation et une évolution de ces sociétés.
Est-ce que la culture, la langue gauloise vont survivre ?
Alors, on a des traces de textes gaulois.
Les druides aussi.
Les druides, sans doute moins. On a sans doute plutôt des hérésies. On a des sorcières. On a découvert, daté du deuxième siècle après Jésus-Christ, des textes écrits en caractère latin, mais en langue gauloise, qui sont des sortilèges. Ces textes, sur plomb, étaient placés dans les tombes. Quelqu'un mourait et on lui confiait, pour le delà, un petit texte, qui sont souvent des textes assez méchants, en disant telle personne, que son champ brûle, que ses brebis avortent, etc. etc.
Donc ça vient forcément d'une tradition gauloise.
Alors ça, déjà c'était en langue gauloise, ça montre que de plus de deux siècles après la conquête, il y a encore des gens qui parlaient gaulois, et puis encore aujourd'hui, on a un petit peu de gaulois quand on prononce le mot alouette, quand on présente le mot ruche, le mot charrue, le mot tonneau, on a un vocabulaire en partie gaulois.
Merci Dominique Garcia. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la postérité des Gaulois, comment au XIXe siècle, les Français, en quête d'identité nationale, se sont mis à s'intéresser à ce passé gaulois.